15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Santé et Bien-être, une émission que nous avons baptisée Sans Rendez-vous, parce que chez nous, pas besoin de réserver une place, la porte est ouverte, vous venez quand vous voulez. Tous les jours, nous répondons à vos interrogations, idées reçues, petits bobos, grands dossiers, questions sexo, Sans Rendez-vous, l'émission dans laquelle vous allez tout comprendre et surtout, nous allons parler de tous les sujets, sans tabou, c'est sur Europe 1. Il est à mes côtés tous les jours, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie.
Alors, au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré à la nutrition des enfants. Manger 5 fruits et légumes, pas trop gras, pas trop sucré. Comment faire la part des choses entre toutes ces recommandations et la vraie vie? Ça donne quoi dans l'assiette à la maison? Doit-on vraiment bannir les fast-foods et les bonbons? Eh bien, on fera le point avec notre invité, le docteur Jean-Michel Le Cerf, chef du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille. Il va nous donner plein de conseils, vous allez voir. Le docteur Jimmy Mohamed, lui, nous livrera son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une maladie très dangereuse, notamment pour les nourrissons, la coqueluche. Ensuite, dans notre chronique, les beau du quotidien. On va parler aujourd'hui des bienfaits des cures thermales, que ce soit contre le mal de dos, l'arthrose ou même l'eczéma. Certaines eaux peuvent-elles réellement soulager ces pathologies? Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. On va parler de ces hommes ou de ces femmes qui ont le sentiment d'être un peu trop coincés sous la couette.
Mélanie Gomez vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et donc tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle de Aude, 29 ans.
Bonjour Mélanie et Jimmy, j'appelais parce que j'ai des problèmes de poils incarnés, j'en ai souvent qui reviennent et ça fait très mal. Et je ne sais pas vraiment quoi faire avec ça, est-ce que vous avez des conseils à me donner?
Alors, les poils incarnés, la spécialité de Jimmy Mohamed.
En tant que médecin.
Ah oui, voilà. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ça peut effectivement être un problème assez pénible. On est d'accord, Jimmy, ça peut toucher autant les hommes que les femmes, hein?
Oui, ça peut toucher autant les hommes que les femmes. En fait, le poil pousse à partir de ce qu'on appelle un follicule pileux, qui fait que le poil va traverser la peau. Et puis, parfois, ce poil, au lieu de traverser la peau, reste coincé, soit parce qu'il n'arrive pas à percer la peau, soit parce qu'il est un peu trop frisé. Et donc, il se recourbe et le poil pousse à l'intérieur, responsable du poil incarné. Alors on a dit que ça touchait autant les hommes que les femmes. Les hommes, c'est plutôt au niveau de la barbe et du torse. Et la femme, c'est plutôt au niveau des cuisses et du maillot, zone où finalement on s'épile.
Ah oui, on s'épile ou on se rase, effectivement. Alors vous dites que c'est le plus souvent, sûrement causé par ça, hein, le rasage ou l'épilation. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes quand même qui peuvent faire qu'un poil s'incarne?
Oui, certains poils prédisposent un peu plus au poil incarné, notamment les poils qui sont plutôt frisés ou crépus ou qui finalement poussent en tire-bouchon, qui ne sont pas très droits. Bah, résultat, le poil, au lieu de sortir, il se retrouve à l'intérieur piégé, responsable du poil incarné. Puis, parfois, les micro-traumatismes, notamment des vêtements qui seraient trop serrés, qui épaississeraient un peu trop.
Ah oui, ça frotte à un endroit, ça
crée des zones de frottement, de friction, et ce qui fait que la peau est plus épaisse et le poil peut un peu moins sortir. Ah oui. Et du coup, on a un peu plus de poils incarnés.
Alors, Aude, dans sa question, elle parle carrément de douleur avec des poils incarnés. Ça peut vraiment faire mal
En principe, un poil incarné ne fait pas mal, sauf quand il devient enkysté, c'est-à-dire qu'il y a une bulle qui se forme avec du liquide, responsable d'une inflammation et parfois d'une surinfection. Et ça peut donner des petits abcès qu'il faut traiter. Du coup, le premier des traitements, c'est la désinfection.
Bien sûr.
Et parfois, on a besoin de donner des antibiotiques ou parfois carrément de vider l'abcès lorsque celui-ci est collecté. Donc, ça peut être douloureux au stade de surinfection.
D'accord, si effectivement, ça s'infecte. Mais en général, c'est juste un peu rouge, quoi. C'est
exactement,
ça.
Un peu rouge, c'est inesthétique sortir, et le poil finit par partir.
Il n'y a pas moyen d'éviter d'avoir des poils incarnés, en fait, tout simplement?
Écoutez, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais il faudrait éviter de se raser ou de s'épiler et laisser pousser les poils. Alors, c'est pas très esthétique
par
moment.
C'est contrarie, en fait.
Exactement, il faudrait les laisser tranquilles, notamment chez les hommes qui ont des problèmes au niveau de la barbe. Sinon, si vous voulez absolument les raser, il faut donc attendre un petit peu. Si c'est pour les hommes, utilisez plutôt un rasoir électrique. Et si c'est un rasoir avec des lames classiques, utilisez simplement ceux avec une seule lame et rasez dans le sens du poil et ne pas hésiter à désinfecter avec un antiseptique. L'alcool ne suffit pas, c'est pas assez antiseptique après un rasage.
Vous devez pas avoir de poils incarnés, vous avez une jolie barbe, ça va bien.
J'ai une barbe que je laisse pousser, ça m'arrange.
Faut pas avoir de poils incarnés.
Je laisse pas de poils non plus dans les lavabos et donc femme est contente.
Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils. On va passer à la deuxième question d'auditeur, plus médicale cette fois. C'est Eva, 34 ans, on l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Ça fait quelques jours que je remarque sur mon enfant quelques rougeurs sur le corps. Je me demande si c'est pas la rougeole. Est-ce que vous pouvez me rappeler les symptômes? Voilà, merci beaucoup.
Alors Dimi, est-ce qu'on peut conseiller un tout petit peu cette maman, même s'il n'est pas question évidemment de poser un diagnostic pour sa petite fille? Pour ça, je rappelle que ce n'est pas le but de l'émission. Hein. Le mieux, c'est de consulter un médecin. Mais tout de même, est-ce que vous pouvez nous rappeler les symptômes finalement de la rougeole?
Alors là, c'est compliqué d'effectivement dire. Alors, toute éruption chez l'enfant n'est pas forcément la rougeole, mais c'est l'éruption la plus fréquente dans le monde lorsqu'elle s'accompagne de température. Globalement, la rougeole, ça commence par une période de gros rhume, une grosse rhino, avec de la température durant 3-4 jours jusqu'à 39-40. Et puis, une fois que et là, à ce moment-là, on ne peut pas faire de diagnostic. Secondairement, une éruption apparaît. Cette éruption, alors elle est très caractéristique. Elle débute derrière les oreilles, au niveau du visage. Mmh. Elle arrive en une seule fois, c'est-à-dire que ça ne s'étale pas sur plusieurs jours. Et elle laisse des intervalles de peau libre, c'est-à-dire qu'on a des zones où on a les boutons, qui sont souvent surélevés en plaques, et des zones où on n'a pas de boutons.
Donc c'est plutôt des plaques que des boutons d'ailleurs.
Exactement,
hein,
c'est des maculopapules, on appelle ça en langage médical. Donc à la fois des boutons plans, mais aussi en sous-relief. Et l'enfant est surtout... Il tolère très mal la température. Un enfant qui a une rougeole, c'est un enfant qui n'est pas vacciné, qui est plutôt apathique et qui est vraiment en plutôt mauvais état général, contrairement aux autres fièvres éruptives qui peuvent donner de la température, mais un enfant qui reste plutôt bien.
Et rapidement, une fois que les boutons, enfin les plaques sont sorties, c'est réglé en quelques jours?
Non, une fois que les boutons sont présents, l'enfant est toujours apathique. L'éruption disparaît en une semaine. C'est une maladie à déclaration obligatoire pour laquelle on a un vaccin, désormais qui est obligatoire, et c'est la seule chose de prévenir la rougeole, car il peut y avoir des complications, notamment chez les personnes fragiles, immunodéprimées. C'est essentiellement respiratoire, avec des pneumonies, des bronchites, des otites, mais aussi parfois des complications neurologiques, et ça peut même aboutir à un décès. Bref, vacciner votre enfant, c'est la meilleure des préventions.
On en reparlera probablement dans son rendez-vous. On fera une émission spéciale sur la rougeole pour rappeler l'importance de cette vaccination. Merci beaucoup, Dimi. Alors, si vous aussi, comme Eva, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, le docteur Dimi Mohamed va vous donner son bon conseil du jour. Aujourd'hui, il va nous parler d'une autre maladie qui peut être très dangereuse pour les nourrissons, la coqueluche. Et puis, on accueillera aussi notre invité du jour, le docteur Jean-Michel Le Cerf, avec qui on va parler de la nutrition des enfants. Son message, arrêtons de faire n'importe quoi. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour de la semaine jusqu'à 16h. À mes côtés, le docteur Dimi Mohamed, avant de retrouver dans quelques minutes notre invité, le docteur Jean-Michel Le Cerf, pour parler de la nutrition des enfants. C'est le moment du bon conseil du docteur Dimi Mohamed. Alors aujourd'hui, Dimi, vous nous parlez de la coqueluche. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette maladie?
Alors, on appelle ça la maladie injustement oubliée. Alors voilà comment certains spécialistes de la coqueluche présentent cette infection respiratoire qui est causée par une bactérie qu'on appelle Bordetella pertussis. Car même si le nombre d'infections a quand même diminué dans le monde, elle reste toujours endémique. Et je vais vous citer deux chiffres tout simplement pour vous en convaincre. La première, c'est qu'aujourd'hui, on estime à plus de 40 millions le nombre de cas de coqueluche dans le monde et à plus de 300 000 décès chaque année. Cette recrudescence de coqueluche, elle est très inquiétante, notamment dans les pays occidentaux. On observe ça aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, mais aussi chez nous en France, lié à une baisse de la vaccination.
Et oui, encore une fois, comme la rougeole tout à l'heure. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie?
Alors, la coqueluche commence par ce qu'on appelle une phase d'incubation qui dure 1 à 3 semaines. La première semaine, pas de symptômes. Mmh. Suivie ensuite d'une phase de rhinopharyngite. Donc on ne peut pas distinguer la coqueluche d'une autre infection.
Ouais.
Et puis on a une seconde phase, la troisième, qui s'accompagne de toux.
La toux de coq un peu, c'est d'où le nom, non?
Exactement,
la coqueluche,
la toux de coq. Mais c'est lié en fait à une toux qui est nocturne, très intense, en quinte, avec un enfant qui finit par reprendre son souffle après une longue inspiration et un bruit aigu, on appelle ça le chant du coq. Cette maladie se traite avec des antibiotiques, donc à partir de quels on aura moins de contagion, et suivi d'une phase de convalescence qui peut durer jusqu'à 3 mois. Et les Chinois l'ont baptisée la toux des 100 jours. Raison pour laquelle la coqueluche, finalement, nous donne une toux très prolongée.
C'est une vraie plaie, effectivement. Est-ce que c'est très, très contagieux? Alors, j'imagine qu'il y a un vaccin, c'est que c'est le cas.
Oui, on estime qu'une personne atteinte de coqueluche contamine 15 à 17 personnes en moyenne.
C'est énorme.
Et c'est au travers des gouttelettes provenant de la salive et du nez. Et cette contagion, elle est maximum la première semaine de toux, puis elle diminue avec le temps. On considère qu'elle est nulle au bout de 3 à 5 jours d'antibiotiques, mais il faudra attendre 3 semaines si le patient n'a pas pris de traitement. Bref, c'est contagieux et surtout au travers de petites collectivités au sein de la famille.
Et donc, on fait le diagnostic comment? Facilement?
Alors, la coqueluche se diagnostique facilement après avoir suspecté cliniquement. On fait faire une prise de sang avec ce qu'on appelle une PCR, qui permet de faire le diagnostic tout simplement.
Et comment on l'évite? Alors le vaccin, j'imagine, encore
alors,
une
oui,
fois.
Alors oui, trois possibilités. La première, c'est la vaccination. C'est pour ça qu'on vaccine les enfants. Et on perd l'immunité liée à la vaccination. C'est pour ça qu'on fait des rappels, notamment lorsqu'on a des enfants et qu'on fait faire les vaccins notamment aux personnes âgées qui auront des petits-enfants. Et le problème, c'est que ça ne suffit pas. Il faut en plus isoler le malade quand celui-ci est malade. Ah, oui. Et puis parfois, on fait ce qu'on appelle une prophylaxie antibiotique, c'est-à-dire qu'on donne des antibiotiques aux personnes autour d'une coqueluche. En revanche, un dernier chiffre, on estime à plus de 90% par coqueluche, on estime pardon, que 90% des coqueluches surviennent chez les bébés de moins de 6 mois. Et plus largement, la coqueluche reste en France la première cause de décès par infection bactérienne entre 10 jours et 2 mois de vie. Bref, c'est une infection qui tue pour laquelle on a un vaccin qui est obligatoire, mais on n'a pas besoin de l'obligation pour vous convaincre de son utilité.
Je pense que là, oui, c'est bon, ça suffit. Avec tous les chiffres que vous nous avez donnés, on fait le vaccin, évidemment. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils. Et donc, tout de suite, nous accueillons notre invité pour le dossier du jour. C'est le docteur Jean-Michel Le Cerf. Il est chef du service de nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille et l'auteur du livre « Nutrition des enfants. Arrêtons de faire n'importe quoi » chez Flammarion.
15h, 16h. Sans rendez-vous sur Europe 1.
Bonjour, bonjour. Ah, Albin Michel, pardon, oui, excusez-moi. Je me suis trompée d'éditeur, pardon, pardon. Évidemment, c'est chez Albin Michel. Bonjour, docteur Le Cerf.
Bonjour.
Alors, avec votre livre qui est donc publié chez Albin Michel, votre livre, en fait, c'est un guide, en quelque sorte, hein, des bonnes pratiques alimentaires à adopter à la maison. Ça tombe bien, je crois que tous les parents, on essaye tous de faire au mieux, mais on ne sait pas toujours, parce qu'il faut avouer qu'en ce moment, c'est compliqué. On a des messages sanitaires de partout. On nous dit manger 5 fruits et légumes, pas trop gras, pas trop sucré, des messages à la télé, à côté de ça, des pubs pour des sodas, des pubs pour des produits industriels, des supermarchés qui regorgent de produits industriels très sucrés qui donnent très envie à nos enfants. On fait comment avec tout ça?
Ben écoutez, on essaie de retrouver un peu de bon sens. Je crois que c'est le premier message qu'on voudrait faire passer. Et puis, on essaye aussi de jouer son rôle de parent. C'est-à-dire, le parent, c'est celui, les parents, c'est ceux qui disent ce qui est bon à manger, ce qui est bon à faire en général. On exerce quand même son autorité parentale. On ne se laisse pas envahir par les désirs des enfants. Après, il faudra quand même réaliser une certaine éducation. Donc, ne pas tout interdire, mais de ne pas tout permettre non plus. Je crois que c'est un bon équilibre qu'il faut trouver entre les deux.
Jimmy ?
Est-ce que des parents en surpoids donnent des enfants en surpoids, mais de façon inéluctable ?
Non, pas de façon inéluctable, mais c'est certain qu'il y a un facteur génétique dans la prise de poids, surtout chez les enfants. Et donc, des parents en surpoids, quand les deux sont en surpoids, vont avoir tendance à avoir plus souvent des enfants en surpoids. Et donc, il y a une vigilance plus importante, mais ce n'est pas une obligation. Il y a aussi, au-delà de l'hérédité génétique, ce qu'on appelle l'hérédité de table, c'est-à-dire que la transmission des habitudes alimentaires parentales est extrêmement importante. Donc, le rôle de l'exemple est absolument manifeste. Dire à son enfant, fais pas ça, mais faire l'inverse, c'est peut-être pas la meilleure façon d'agir.
Alors, on va poursuivre cette discussion sur l'alimentation des enfants dans un instant. Docteur Le Cerf, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans quelques minutes, on passe donc dans la cuisine familiale. Dans le concret, les enfants mangent-ils par exemple trop de viande aujourd'hui, eux aussi? Un régime végétarien est-il possible et sans danger pour eux? Et du côté du sucre, qu'en est-il? Doit-on vraiment leur interdire tous les bonbons ou même les fast-foods? On vous dira tout. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Jean-Michel Le Cerf. Il est chef du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille et l'auteur du livre Nutrition des enfants. Arrêtons de faire n'importe quoi chez Albin Michel. Alors docteur, avec vous, on va passer maintenant dans le frigo familial, si je puis dire. D'abord, on entend beaucoup en ce moment qu'on mange trop de viande, tous. Est-ce que les enfants aussi en mangent trop ?
On ne peut pas dire tous mangeons trop de viande. Il y a des personnes qui mangent trop de viande, il y a des enfants qui mangent trop de viande, il y a des enfants qui mangent trop de protéines. Mais la viande n'est pas un mauvais aliment, c'est une question de quantité. En plus, elle est très particulière parce que chez l'enfant, les besoins en fer sont tout à fait importants. Il est difficile d'atteindre les apports conseillés en fer quand un enfant ne mange pas du tout de viande. Et donc, on ne conseille pas de supprimer la viande chez l'enfant.
Donc les parents végétariens, c'est plutôt dangereux
non,
convertir ses enfants au même régime ?
Dangereux végétarien, non, mais il y a un risque quand même de déficit en fer. Et la viande donc peut être inclue dans un régime alimentaire normal. Par contre, le végétalisme, c'est-à-dire supprimer tous les produits animaux, n'est pas du tout conseillé chez les enfants. D'ailleurs, ça n'est pas non plus conseillé dans les autres populations à cause du risque très important de carence en vitamine B12.
Ah oui, et là, c'est dangereux, ça. Hein.
Alors là, c'est réellement dangereux, puisqu'au bout de quelques années, vous commencez à avoir des troubles neurologiques, des troubles neuropsychiatriques et des troubles hématologiques aussi, donc quelque chose qui n'est pas du tout sympathique. Il ne faut pas être végétalien. Par contre, on peut valoriser les aliments d'origine végétale. C'est tout à fait important.
Ça, bien sûr. sûr, on va en parler.
Ça, c'est une très bonne chose.
Jimmy ?
Les enfants adorent tout ce qui est pain et céréales. Est-ce que c'est quelque chose qui risque de les faire grossir ? Non, le pain, c'est pas terrible.
Oui, enfin, si on en donne de trop, non. En général, il n'y a pas d'aliment qui fasse grossir. Ce qui fait grossir, c'est quand on mange trop en quantité de tout par rapport à ce qu'on dépense. Et donc, nous, on insiste beaucoup sur l'importance de l'activité physique dans une bonne nutrition. On ne peut pas avoir de bonne nutrition si on n'a pas une bonne activité physique. Si on a une bonne activité physique, on a besoin de féculents, on a besoin de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre. Et
un
adolescent, tous les jours, bien sûr, il n'y a aucun problème. Alors, on va choisir plutôt du pain complet, plutôt que du pain de mie, ou plutôt que des viennoiseries ou des croissants, qui seront donnés occasionnellement, exceptionnellement, pour faire plaisir, parce que le plaisir fait partie de l'alimentation.
D'accord. On va passer au sucre à présent, parce que ça aussi, c'est un gros sujet. On en parle beaucoup. On l'accuse aujourd'hui de tous les maux. On dit que ce serait même une drogue qui peut avoir des pouvoirs comme la cocaïne. Est-ce qu'on mange trop de sucre? Et surtout, est-ce que nos enfants en mangent trop?
Non, c'est pas du tout une drogue. Il n'y a aucun aliment qui soit une drogue. C'est une idée qui a été transmise à partir d'expérimentations chez l'animal. L'homme n'est pas un animal. Et donc, le sucre peut faire partie d'une alimentation normale. Son excès n'est pas souhaitable. Et en particulier, il faut être très vigilant sur les boissons sucrées qui nous posent un gros problème parce que beaucoup d'enfants prennent l'habitude de boire des boissons sucrées à table entre les repas. Ça, c'est vraiment pas une bonne chose.
Jimmy ?
Et les bonbons, alors ?
Bonbons, comment voulez-vous faire croire
à
des parents
enfant,
que des bonbons, c'est pas bon, puisque tout le monde sait que c'est bon. D'ailleurs, ça s'appelle bonbon.
Ça aucun intérêt pour la santé, nutritionnellement parlant,
bien sûr,
on est d'accord,
mais
c'est un plaisir.
C'est pas parce que ça n'a pas d'intérêt pour la santé que ça n'a pas d'intérêt tout court. Moi, je suis grand-parent, quand j'ai un petit enfant...
Vous donnez des bonbons à vos petits-enfants,
le problème, c'est que je ne leur donne pas un paquet de bonbons tous les jours, je leur donne un bonbon de temps en temps. Et si vous interdisez complètement les bonbons, de toute façon, les enfants vont aller les chaparder ailleurs, où ils vont considérer que comme c'est interdit, c'est vraiment l'aliment idéal.
J'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps dans un goûter d'anniversaire qui n'a pas le droit de manger des bonbons chez lui, qui s'est gavé de bonbons chez moi et qui a même vomi à la fin de l'anniversaire. Donc effectivement, il faut qu'en donner un de temps en temps, ça évite ce
C'est un exemple
ce
parfait. Bon, bien sûr, les bonbons ne font pas partie du top de l'alimentation équilibrée, loin de là. Mais vous savez, les modes contre le sucre, contre les graisses, contre la viande, ça fait des dizaines et des centaines d'années qu'on nous les balance. Tout ceci n'a pas beaucoup de sens.
Bon, vous êtes plutôt pour donc, le sucre, mais de manière raisonnable. Les biscuits, les gâteaux qu'on trouve de façon industrielle, je veux dire, comment on les choisit? Parce que moi, mes enfants, ils ont envie de gâteaux.
D'abord, vous pouvez donner de temps en temps des gâteaux, des biscuits, mais c'est vrai que pour un goûter, le mieux, c'est d'avoir du pain, des carrés de chocolat, un verre de lait, un fruit, des aliments simples. Mmh. Bah, évidemment, dans la poche des enfants, c'est pas toujours pratique.
Pour mettre à l'école,
oui, bien
dans
sûr,
cartable.
Mais il y a que 4 jours, je vous signale, que 4 jours simplement par semaine à l'école, et les autres jours, c'est vous qui les avez devant vous. Donc il faut leur donner l'habitude.
Donc mercredi, samedi, dimanche, carré de chocolat et pain, et les autres jours,
oui,
quelques
gâteaux.
Oui, mais peut-être
après, ils vont aussi prendre goût de consommer autre chose. Les biscuits peuvent faire partie d'une alimentation normale, mais on choisira des biscuits où la liste des ingrédients n'est pas trop longue, où il y a finalement des céréales et puis des fibres, parce que si les biscuits sont en céréales complètes, c'est encore mieux.
La pâte à tartiner type Nutella machin, vous êtes pas contre vous, rapidement?
Non, mais on peut pas être contre les aliments, puisque soit l'aliment est dangereux, il faut l'interdire et il faut poursuivre l'État qui autorise la vente d'aliments dangereux, soit on apprend aux gens à en manger peu avec plaisir de temps en temps. Alors on évite d'acheter le gros pot de 2 kilos ou 3 kilos avant Pâques,
ça, c'est pas
où il y a une promotion, parce que quand le pot est là, on va le finir. Donc c'est vraiment une question de disponibilité, d'accessibilité. Si on a un de temps en temps parce qu'on a décidé ce qui était un peu festif, eh bien pourquoi pas, mais pas régulièrement.
Docteur Le Cerf, on n'en a pas terminé, on va poursuivre cet entretien, vous restez avec nous.
Merci.
Europe 1. Dans un instant, on va continuer à vous donner plein de conseils pour bien nourrir les enfants. Comment être sûr qu'ils ne manquent pas de certaines vitamines? D'ailleurs, faut-il leur donner parfois des compléments alimentaires? Et puis, comment faire quand les petits refusent les légumes, par exemple? Faut-il se battre, préparer autre chose? Notre invité nous dira tout. Restez avec nous sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, le docteur Jean-Michel Le Cerf. Il est chef du service de nutrition et d'activité physique de l'Institut Pasteur de Lille. Alors docteur, on va parler peut-être un petit peu du lait. Alors jusqu'à 3 ans, grosso modo, on sait que parce que les pédiatres insistent beaucoup dessus, on nous dit votre enfant doit boire notamment au biberon ou au bol, mais tant de lait de croissance le plus souvent. Mais grosso modo, après 3 ans, donc avant 3 ans, les parents ils ont assimilé que c'était vraiment nécessaire, mais après 3 ans, est-ce qu'on en a toujours besoin du lait? C'est pas dangereux d'avoir trop de lait?
Les excès de lait ne touche pas vraiment notre population. C'est plutôt les insuffisances de lait aujourd'hui. Le lait est un aliment exceptionnel. Et je pense que priver un enfant de lait, c'est vraiment une erreur nutritionnelle. Il n'y a pas d'âge où il n'y a plus d'indication à consommer des produits laitiers. Au contraire, en avançant en âge, notamment chez les jeunes filles adolescentes, c'est extrêmement important parce que c'est à cet âge-là qu'elles vont constituer leur masse osseuse qui sera définitive. Et ensuite, si elles partent d'un niveau qui est plus bas parce qu'elles n'ont pas consommé assez de lait, le risque de fracture ultérieurement est beaucoup, beaucoup plus élevé.
Même
donc le lait à tous les âges, bien sûr, chez les garçons comme chez les filles.
Et lait plutôt écrémé, demi-écrémé, on choisit quoi ?
Du lait entier, bien sûr, parce que c'est le lait entier qui apporte tout ce qui est vraiment nécessaire.
Ça ne fait pas grossir, parce qu'il est entier.
Non, ça ne fait pas grossir. Le lait n'a jamais fait grossir personne. Au contraire, les études montrent que les personnes qui consomment des produits laitiers ont un poids qui est plus bas.
D'accord, Jimmy ?
Une question qui revient souvent en consultation, c'est des parents inquiets qui veulent absolument que je prescrive des vitamines, pensant que leur enfant est carencé. Est-ce qu'on peut les rassurer qu'ils n'ont pas besoin forcément de vitamines, à part la vitamine D qu'on donne de façon classique.
Bien sûr, non, les enfants n'ont pas besoin de vitamines en supplément. Il n'y a qu'une seule indication, c'est les parents qui ont des enfants, enfin les enfants très pauvres, les parents très pauvres. Mais dans ce cas-là, ils ne vont jamais acheter des compléments alimentaires. Et donc, il faut vraiment conseiller l'alimentation. L'alimentation suffit totalement à couvrir tous les besoins dès lors qu'elle est équilibrée. Et donc là, de ce point de vue-là, il n'y a aucune indication, excepté la vitamine D, pour les enfants.
Si l'alimentation est équilibrée, on a suffisamment de nutriments,
bien
et vitamines,
sûr,
et aucun enfant, a priori, n'est carencé, sauf problème médical.
Non, mais ce serait un prétexte qui serait un peu dommage. Il faut plutôt aller vers l'alimentation.
D'accord. Alors, on va parler un petit peu des fruits et légumes, parce que ça aussi, c'est important, et c'est parfois un casse-tête pour les parents. Le message, c'est 5 fruits et légumes. Mais ça, c'est vraiment 5 tous les jours ?
Non, mais 5, c'est un peu trop normatif, si vous voulez. 5 fruits et légumes, c'est vraiment très important chez les adultes, parce que les études ont montré que ça diminuait beaucoup de maladies. Chez les enfants, il faut essayer de les habituer un peu à la fois à manger des légumes, mais il ne faut pas faire la guerre, de sorte que l'alimentation et les repas vont devenir des véritables combats et on ne va pas s'en sortir. Bien sûr, il faut encourager la consommation de légumes, mais il est normal que les enfants ne soient pas spécialement attirés par les légumes, parce que ce sont des goûts qui sont un peu plus difficiles. Et donc, comment on va faire ? On va petit à petit leur apprendre à goûter les aliments, parce qu'en découvrant les aliments successivement, ils vont finir par les apprécier. Mais il y en a qui sont moins appréciés, c'est normal. Le chou, les asperges, les endives, c'est toujours plus difficile, c'est normal.
Jimmy ?
C'est aussi difficile chez les adultes, hein, le chou et les asperges.
Oui, voilà.
Donc, pour être honnête. Hein, voilà.
Moi, j'adore les choux de Bruxelles, je trouve ça délicieux.
Ah, là,
bon.
Bien,
et les brocolis, c'est mon légume préféré.
Ah, oui. Et les brocolis, ça marche.
Hein, qui explique cela. Hein. Ah. On est très différents pour la perception des goûts.
Ouais.
En ce moment, c'est un peu la psychose. On parle beaucoup de pesticides, d'OGM. Du coup, mieux vaut prendre des fruits et des légumes bio.
Oui, c'est tout à fait faux. Les légumes bio, c'est très bien pour encourager une bonne agriculture. Mais les légumes conventionnels ont une composition qui est identique à celle des légumes bio, et en termes de teneur en pesticides, il n'y a pas de dépassement dans 98% des cas sur 100 000 analyses qui ont été effectuées par l'Agence européenne de sécurité sanitaire des aliments.
Ouais.
Donc, vous pouvez consommer des légumes conventionnels sans aucune inquiétude.
Pas de danger pour nos enfants,
absolument
évidemment.
Pas de danger pour nos enfants. Ce serait quand même dommage de devoir absolument choisir des légumes bio. Par contre, on peut acheter bio, c'est pas dangereux,
bien
et
sûr.
C'est bon pour la nature.
Évidemment. Et si on n'achète pas bio, donc par exemple, est-ce qu'il faut garder la peau ? On peut quand même la garder, parce qu'on a l'impression que c'est là
que
ça se concentre éventuellement.
Oui, bien sûr, on vient de faire une étude là-dessus, et justement, on a démontré que les teneurs résiduelles dans la peau étaient infimes. Alors bien sûr, par précaution, on va simplement laver une pomme et puis l'essuyer. Et ça suffit, ça élimine les quelques rares traces de résidus qui existent, contrairement à ce qu'on entend souvent.
Mmh. Alors avec les enfants, c'est pas toujours facile, parce que parfois c'est non. Notamment, moi j'ai une petite fille de 2 ans qui tout d'un coup ne veut plus rien manger en légumes, elle veut plus de légumes en morceaux. C'est normal de passer par cette phase de non, je veux pas manger
ça. Oui, c'est tout à fait normal.
Alors qu'elle aimait avant. Hein.
Oui, bah bien sûr. Vous décrivez exactement ce qui se passe normalement, c'est-à-dire que pendant les 18 premiers mois, en gros, l'enfant accepte tout ce que sa maman lui donne, puisque l'enfant se sépare pas bien psychologiquement de sa mère, donc il y a une espèce de fusion, et puis ensuite il se détache de la mère, il va construire son identité alimentaire, c'est ce qu'on appelle
la néophobie. Pour l'instant, son identité, c'est rien, hein, c'est aucun légume.
Oui, c'est normal, c'est la néophobie, il va rejeter tout ce qu'il a aimé, et puis petit à petit, il va incorporer lui-même, apprivoiser lui-même.
Et ça revient quand, ça ?
Vers l'âge de 7 ans, ça se termine.
Mon Dieu, ça veut dire que pendant 5 ans, elle ne va pas manger.
Ça n'est jamais fini, la néophobie alimentaire. Regardez, il y a un instant, on nous parlait.
Ah oui, Jimmy, il est toujours néophobe alimentaire.
Vous disiez qu'il n'aimait pas toujours les choux, les asperges.
Non, mais personne n'aime les choux, les asperges, arrêtez à part vous.
Voilà. On a le droit de ne pas aimer certains aliments, c'est tout à fait normal. Donc, cette phase de néophobie, il faut la connaître. Et il faut donc insister pour faire goûter l'enfant, mais pas faire manger.
D'accord.
Il faut lui dire, tu n'aimes pas, c'est pas grave, tu n'aimes pas encore, peut-être qu'on réessayera une autre fois. On peut aller jusque 7 fois, voire 14 fois, faire goûter un aliment à un enfant avant qu'il l'aime ou ne l'aime pas.
D'accord. Jimmy ?
Est-ce que c'est une erreur de demander aux enfants ce qu'ils veulent manger le soir ? Alors certains vont me dire les gnocchis, l'autre doit vouloir des brocolis. Est-ce qu'on doit faire pareil pour tout le monde, même si on sait que parfois les frères et sœurs ne partagent pas les mêmes goûts ?
Oui, c'est une erreur absolument éducative. Il ne faut jamais demander à un enfant ce qu'il veut manger, sauf le jour de son anniversaire. Il faut dire à table, on mange. On mange quoi ? On mange. Point. C'est terminé. Si vous prenez cette habitude, l'enfant, il va bien se rendre compte qu'il n'a pas d'autre choix. Il va manger ou moins manger, c'est pas grave, parce que tout le monde mange.
Moi, si je demande tous les soirs, ça va être des frites, hein, donc je pose pas la question.
Il faut surtout jamais demander à l'enfant ce qu'il veut manger, sinon vous allez rentrer dans ce qu'on appelle l'enfant roi, celui qui décide, ce sont les parents qui décident. S'il aime moins, ben il aime moins, mais petit à petit, il va voir que ses frères, ses sœurs, ses parents en mangent, et comme ses parents l'aime aussi et aime aussi ses frères et sœurs, il va dire, puisque mes enfants, mes frères et sœurs sont aimés de mes parents, finalement, je vais aussi manger ce que mes frères et sœurs mangent.
On finit par, on apprend aux enfants à finir leur assiette ou pas ?
Oui, pas forcément. C'est un petit peu une idée qui est un peu dépassée parce que on va au-delà du sentiment de rassasiement, qui est quelque chose que de physiologique. Et moi, je dis aussi aux adultes comme aux parents, vous n'êtes pas une poubelle. Apprenez à vous arrêter quand vous ressentez que vous êtes rassasié. Mmh. Bien sûr, il y a des mécanismes qui font qu'on n'a plus envie de cet aliment, mais d'un autre. C'est tout à fait normal. Ça nous conduit à la diversité alimentaire.
On ne prive pas de dessert celui qui finit pas son assiette.
Non, sauf si manifestement il y a un caprice qui a d'autres origines et qui peut être éventuellement lié à un conflit.
Jimmy ?
Que penser des fast-foods ? Parfois c'est compliqué de résister. Moi j'essaie au maximum, mais il y a des moments où on craque. Hein. On a l'impression d'être des parents horribles quand on ne peut pas les amener.
Tous mes copains y vont. Moi j'aimerais
bien
y aller.
Oui, mais bien sûr, il faut conduire l'enfant en fast-food de temps en temps parce que si vous dites jamais de fast-food, il va y aller.
Il va être aimé des enfants, ce docteur.
Il faut aussi le conduire vers des restaurants de qualité où il apprendra à choisir là, cette fois-ci, puisque ça sera une occasion festive, à apprécier d'autres saveurs.
Le restaurant un petit peu plus gastronomique, c'est pas que pour les parents, c'est ça ?
C'est pas que pour les parents. Alors, pas des choses qui sont très onéreuses, mais il pourra découvrir d'autres choses, et c'est ça qui est très intéressant. Mais pour découvrir, j'insisterai quand même sur une chose qui me semble essentielle, c'est de cuisiner avec les enfants. Faites à manger avec lui, faites les courses avec lui, dans un marché, pas dans un grand magasin, bien entendu. Si vous avez un petit bout de terrain, un balcon ou bien une jardinière, et bien cultivez des légumes ou de la salade ou du persil. Et puis ensuite, cuisinez avec les enfants. Des gâteaux, des soupes, tout ce que vous voulez. Il va améliorer sa connaissance et son amour des aliments, et c'est ça qui est important.
Et quand on n'a pas, alors cuisiner c'est bien, mais parfois on n'a pas le temps. Est-ce que de temps en temps, un petit plat cuisiné tout prêt, c'est...
Bien sûr, il y a des plats cuisinés qui sont excellents, mais là aussi, il faut apprendre à les choisir.
Comment choisir ?
Prenez des plats cuisinés qui sont simples, qui sont nature, il y a des surgelés qui sont excellents, c'est un dépannage, mais c'est aussi parfois une façon de donner des légumes ou une variété parce qu'on n'aurait pas eu le temps, donc il ne faut pas se culpabiliser, il faut apprendre à choisir. Évidemment, si c'est les pizzas tous les jours, mais je suis désolé, il y a une publicité pour les pizzas il y a quelques instants. Si c'est ça tous les jours, c'est dommage. On n'est plus dans la variété qui est extrêmement importante.
Pour terminer, juste un petit mot peut-être sur ces applis qu'on voit beaucoup. Aujourd'hui, on voit les gens au supermarché en train de scanner les produits parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui est écrit sur les étiquettes. Vous en pensez quoi, vous, de cet outil pour faire les courses ?
Pas beaucoup de bien parce que si vous voulez...
Moi, j'adore, j'utilise tous les jours.
Oui, non, mais c'est très intéressant de savoir ce qu'il y a dedans. Mais le problème des applis, c'est qu'elles nous donnent non pas une information, mais un jugement. Et le jugement, il n'est pas juste parce que, en fait, tout est une question de quantité. Et puis ensuite, il est basé sur des données qui ne sont pas forcément pertinentes scientifiquement. Donc, vous pouvez utiliser des applis, mais sachez que ce jugement bon ou mauvais, qui est binaire, n'est pas juste.
Merci beaucoup, docteur Le Cerf, d'être venu sur notre plateau nous éclairer un peu plus sur ce qu'on met dans l'assiette de nos enfants. Je rappelle le titre de votre livre, Nutrition des enfants. Arrêtons de faire n'importe quoi, chez Albin Michel.
Merci.
Merci encore. Dans un instant, notre chronique Les Mots du Quotidien. Et aujourd'hui, on s'est intéressé aux bienfaits éventuels des cures thermales, que ce soit contre le mal de dos, l'arthrose ou même l'eczéma. Certaines eaux peuvent-elles vraiment soulager ces pathologies ? On fera le point. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Mots du Quotidien. Et aujourd'hui, on parle des cures thermales contre les maladies. On peut s'en faire prescrire parfois. Comment l'eau peut-elle améliorer quelques mots ? Justement, notre reporter Benjamin Lévesque a été vous donner la parole. On écoute son micro-trottoir.
On fait du sport, ensuite on mange, ensuite on fait un hammam ou un sauna très très chaud, puis on se jette dans de l'eau très très froide, et puis après on a un massage, et puis après on recommence.
Le truc en Suisse avec la montagne, la baie vitrée, puis les gens qui sont massés à l'intérieur.
C'est bon pour la peau, enfin moi j'avais la peau toute douce après.
Je pense qu'on se détend.
T'es loin du stress.
Bah, généralement il y a des soins qui sont prodigués avec des eaux qui ont des spécificités et qui justement apportent du bien-être aux gens. Généralement, c'est des patients qui le font, des gens qui sont malades.
J'avoue qu'un hammam, c'est agréable. Quand on sort, je trouve que la différence de température, ça fait du bien au corps. Voilà, ça nous force à manger équilibré.
Ça peut être intéressant pour justement avec les minéraux.
Ça peut soigner les articulations et les rhumatismes et tout ce qui est en rapport avec le corps. Pas forcément les muscles, mais vraiment dans l'ossature.
Des dermatologues peuvent prescrire ce genre de cure, justement.
Et oui, les dermatologues, parce que justement, ben, ça peut servir dans des pathologies dermatologiques. Alors Jimmy, avant de parler de l'efficacité des cures thermales, quand même, on va rappeler juste c'est quoi une cure thermale.
Eh ben, on dit dans cure thermale, il y a cure. Et cure, ça fait partie du traitement. Donc c'est un traitement qu'on considère comme médical. Donc c'est un traitement avec comme moyen l'eau, là, qui est une source naturelle, mais qu'on peut utiliser sous forme du coup, d'eau, soit de boue ou encore de gaz. Et on va dans une station durant plusieurs jours avec une prise en charge qui est finalement globale et les malades... on peut traiter différentes pathologies avec.
Alors justement, lesquelles on peut nous se faire prescrire une cure pour quelle pathologie?
Alors pour plein de pathologies, alors essentiellement des pathologies dermatologiques, notamment des eczémas, on a parlé que les dermatologues pouvaient le faire. On a aussi souvent des pathologies articulaires avec des personnes qui souffrent d'arthrose, mais aussi respiratoires avec de l'asthme, parfois ORL avec des patients qui font des sinusites chroniques. Mmh. Bref, il y a plein d'applications dans lesquelles les cures thermales peuvent aider.
Et elles sont remboursées quand c'est souvent des séjours longs. Alors parlons quand même un tout petit peu de l'efficacité. Comment l'eau pourrait soigner? Moi, ça, je suis un peu sceptique quand même.
Alors, c'est compliqué. Les études sont un peu controversées parce que la rigueur scientifique n'est pas non plus excellente. En revanche, moi, je m'en rends compte, et souvent, les patients s'en rendent compte, et mes confrères s'en rendent compte, que empiriquement, c'est-à-dire d'expérience personnelle, les patients sont plutôt satisfaits et vont mieux. C'est-à-dire qu'ils ont moins d'arthrose et moins de crises lorsqu'ils en ont, exactement. Ils prennent moins de traitements, ils ont un asthme qui est équilibré. Dans les sinusites, ça marche. Dans l'obésité, ça peut marcher. Donc, l'étude scientifique n'est pas très, très validée. Mais en revanche, les patients et le ressenti des praticiens semble plutôt aller dans le bon sens.
C'est peut-être un effet placebo et puis surtout une prise en charge globale, hein, c'est ça, parce que quand on va là-bas, on nous fait parfois de la kiné, on a aussi un médecin qui nous reçoit avec des conseils, c'est peut-être tout ça qui
fonctionne
aussi.
Exactement, la nutrition, l'accompagnement psychologique, l'encadrement, on est coucouné, et puis finalement peut-être qu'on prend un peu mieux ses traitements par la suite. C'est cette prise en charge multidisciplinaire plutôt que simplement le traitement de l'eau qui pourrait être efficace.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed pour toutes ces précisions. On consacrera peut-être d'ailleurs une émission aux cures thermales prochainement pour faire le point sur ces cures. Merci Jimmy.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission, vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout car juste après, on se retrouve pour la chronique sexo. Aujourd'hui avec Catherine Blanc, notre sexologue, on va parler de ces hommes ou de ces femmes qui ont le sentiment d'être un peu trop coincés sous la couette. Restez sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc. Elle arrive dans le studio. Bonjour Catherine, vous êtes sexologue et psychanalyste. Bonjour, pardon.
bonjour Mélanie. Bonjour Jimmy.
Alors aujourd'hui, Catherine, on a une question de Michael, 32 ans, je vous la lis. J'ai rencontré une fille dernièrement. Au moment de passer à l'acte, elle s'est interrompue pour aller chercher dans son sac ce que je croyais être un préservatif. Elle a en fait sorti deux sextoys. Je n'ai rien du tout contre ces jouets. Pourquoi pas en effet en faire usage? Mais à ce moment-là, je me suis sentie mal. J'ai eu le sentiment d'être niée. Serais-je plus inhibée que je ne le pense? Alors Catherine, on va essayer de répondre à Michael. Est-ce que d'abord, c'est normal qu'il se soit senti un petit peu coupé comme ça en pleine action? Elle a été sortir des sextoys, il s'attendait à autre chose. Bon, c'est l'effet de surprise un peu.
Alors déjà, votre terme coupé est tout à fait intéressant. Je pense qu'en effet, il s'est senti vraiment castré puisqu'elle est allée chercher quelque chose pour se satisfaire, pour être source d'excitation, si bien que donc, elle lui a renvoyé l'idée que ce qu'il contenait, ce qu'il avait, à savoir son pénis à lui, eh bien, n'avait pas lieu d'être suffisamment intéressant. Donc, en effet, il s'est senti castré, ce qu'on peut tout à fait comprendre.
Normal, il dit, moi, je me suis senti nié. Il s'est sorti mal à l'aise aussi, parce que c'est un peu bizarre quand même. Enfin, après, pas de jugement, hein, mais pourquoi cette fille, ils se connaissent pas très... Il le dit, on se connaît pas depuis longtemps. Et tout d'un coup, elle a cette idée-là. C'est étrange quand même, non?
Oui, alors c'est un petit peu le défaut aussi de la médiatisation de la zone, de la vie intime. Aujourd'hui, nous avons, après avoir nié le sujet de la sexualité, y compris même au sein même du couple, aujourd'hui il est sur la place publique et il est ordonné, il est dirigé, il est mis en image, mis en action. Enfin, on propose beaucoup de choses, donc si bien que les gens n'osent même plus être dans la découverte de la relation à l'autre et se sentent du devoir, surtout les jeunes couples, surtout les jeunes gens, du devoir de montrer qu'ils sont bien au fait des trucs modernes, des trucs branchés et qu'ils ont bien toute la panoplie. Alors c'est vraiment un peu la mallette du plombier. Donc
chercher sa mallette, quoi.
C'est ça. Mais peut-être aussi parce qu'elle-même se réduit à ça et elle se réduit dans le regard de l'autre.
Elle a voulu se donner un genre, peut-être.
Un genre de fille libérée, ou au contraire, pour que ça m'amène à quelque chose qui m'excite, il faut mettre les codes que je connais, que je maîtrise et que je pratique moi-même sans toi. Ce qui, donc, on comprend bien pour Michael, a été source de déni de lui.
Jimmy ?
Alors, au contraire, moi, je pensais qu'on utilisait les sextoys au bout d'un certain temps, lorsque, non pas il y avait une routine, mais parfois une confiance qui s'installe. Est-ce que C'est pas plutôt normalement un truc de vieux couple, les sextoys ?
Alors, ça l'est effectivement pour certains qui vont essayer de remettre un petit peu du piment, de l'insécurité notamment, parce que le piment, il vient de l'insécurité, entre, où on est entre pudeur et impudeur, curiosité et interdit. Mais certains, effectivement, sont un peu caricaturaux dans leur façon de fonctionner parce qu'ils arrivent trop en doute avec eux-mêmes et la capacité de leur propre sexe. Ils viennent avec une batterie de choses à proposer à l'autre, mais du coup, mon doute quant à moi est rejeté sur l'autre, qui devient quantité négligeable, ce qui est évidemment délétère dans la relation.
Puis il y a le côté surprise, quoi. Elle l'a pris un peu par surprise, enfin, façon de parler. Elle a été chercher tout d'un coup un truc, elle revient sans le prévenir. Peut-être que si elle avait dit ce qu'elle allait chercher, ça serait mieux passé, non ?
Je sais pas. Ou ça t'amuserait d'eux, ou tu sais,
voilà. Avec une petite proposition, ça passe peut-être mieux.
Voilà, parce que là, c'était assez directif. Et si finalement, il n'était là que pour manipuler l'engin plutôt que d'apporter ce qu'elle n'aura pas dans son sac quand elle repartira et qui est particulièrement précieux, c'est ce qu'il lui offre, à savoir son pénis à lui.
Et donc, il s'est senti remplacé par un jouet, quoi, en fait.
C'est ça. Mais à ce titre, il faut être vigilant. Il n'est pas question de dire qu'il faut, il ne faut pas, c'est bien, c'est pas bien, encore
c'est
une fois.
C'est pas ça la question.
Les sextoys ont toujours existé depuis la nuit des temps, donc ce n'est pas une histoire de notre temps moderne d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça vient faire quand c'est au-delà du couple lui-même, au-delà de la relation, et où finalement le sextoy devient l'objet de délice et le partenaire ou la partenaire finalement interchangeable.
Jimmy ?
Et finalement, est-ce que Michael, comme il le dit, il ne serait pas un peu plus inhibé qu'il ne le pense ?
Bah, il est peut-être plus qu'il ne le pense, au sens où les gens pensent qu'ils peuvent tout faire, et puis face à la réalité, les choses sont un peu différentes. Parce que quoi qu'il en soit, que nous parlions, même nous, ici dans ce studio où on parle, on s'en amuse, on s'informe, évidemment que c'est une chose d'avoir l'ouverture intellectuelle, c'est une chose d'avoir la capacité à intervenir et échanger sur le sujet, c'est une autre de rencontrer la sexualité dans l'intimité d'une relation, dans l'intimité de nos nudités, dans l'intimité d'émotions. Et oui, nous avons des inhibitions et heureusement, nous avons des pudeurs. Et heureusement, parce que c'est justement cette pudeur qui, quand elle est bousculée, fait le cran supérieur de l'excitation. Si on n'avait pas de pudeur, si on n'était pas inhibé, finalement, on ferait ça comme on prendrait le métro et ça perdrait complètement de son charme et de son intérêt. Donc, il faut assez d'aisance pour être dans la sexualité, pour ne pas être encombré et raide, mais il faut suffisamment de pudeur pour pouvoir jouer à la bousculer délicatement.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Demain, dans notre grand dossier, nous ferons le point sur les techniques de reconstruction après un cancer du sein. Environ 30% des femmes seulement décident de se faire refaire la poitrine après une mastectomie, par exemple. Pourquoi si peu de femmes font ce choix et finalement, quelles sont les techniques utilisées par les chirurgiens ? On verra tout ça, mais tout de suite, on retrouve comme chaque jour Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous connaissez sa perruque peroxydée, vous l'avez vue à l'Eurovision. Vous allez découvrir un garçon attachant avec une tête bien faite. Bilal Hassani est notre invité. Aujourd'hui, il publie Singulier, un livre qui va aider tous ceux qui se sentent différents et qui ont envie de l'assumer et de le rester. On se retrouve tout de suite dans l'équipe est sauvage.
Merci beaucoup Mathieu, je vous souhaite une bonne émission. Restez sur Europe 1.